En me parlant d'accueil, parmi ceux qui nous visitent, je ne peux pas résister au plaisir de saluer Françoise et Jackie Joannidès, à qui je vais demander de bien vouloir se lever. Et après, je vous présenterai. Bienvenue chez vous. Alors, ce sont des souvenirs que les moins de 20 ans, peut-être, non, le moins de peut-être 15, peut-être pas 20, ne connaissent pas, mais Françoise a été à l'origine, la cheville ouvrière de tout le développement social de notre communauté dans les années 93 jusqu'au début des années 2000. De par son travail, et puis elle était aussi accompagnée de Jackie, son mari, et donc elle a mis en œuvre les choses dont nous rêvions en termes d'aide alimentaire, d'aide vestimentaire, d'aide sociale, d'aide aux personnes âgées et de mise en place de l'accueil de jour et de nuit pour les SDF que nous avons dirigé pendant une quinzaine d'années. Enfin, il y a bien d'autres choses encore, mais c'est elle qui a mis tout cela en œuvre et avec brio et qui a aussi su mobiliser plusieurs d'entre nous pour entrer dans ce projet. Alors, on en parle souvent de ce passé. Ceux qui étaient là s'en souviennent, ceux qui n'étaient pas là peut-être. L'apprennent, le découvrent, mais maintenant vous pouvez mettre un visage sur l'une des personnes qui a été un élément clé de ce projet. Alors merci encore. Oui, vous pouvez y aller. Parce que cette œuvre, puisque c'est de cela dont nous parlons en ce moment, hein, les œuvres préparées d'avance pour Dieu, cette œuvre a permis le rayonnement de l'Église qui se poursuit aujourd'hui de différentes façons, mais qui a laissé des traces dans toutes les administrations et dans tous les services sociaux de notre ville et dont on recueille encore les fruits aujourd'hui. Et on s'en réjouit. Oui, ce thème cette année, c'est cela, hein, c'est prendre conscience des talents que Dieu a donnés à chacun. Ces talents qui constituent notre destinée, notre appel, notre mission de vie, en vue d'accomplir des œuvres, parfois individuelles, parfois collectives, de tous ordres, de toute nature, parfois des œuvres visibles, publiques, parfois des œuvres secrètes, cachées, discrètes, mais qui auront un impact aussi dans le royaume de Dieu, puisque dans le royaume de Dieu, ce n'est pas que le visible et le médiatique qui est valoriser, mais aussi ce qui se fait dans le secret, ça commence par la prière. La prière est une œuvre dont Jésus dit qu'elle se fait dans le secret. Et elle n'est pas pour autant sans fruit, puisque le Père sait que cette œuvre, il en tient compte et il agit en fonction de ce qui se fait aussi dans le secret. C'est important de dire cela, parce que dans notre société tellement hyper médiatisée, on pense que tout ce qui est clinquant, tout ce qui est brillant existe seulement. Or, il y a beaucoup de choses qui se font de manière invisible, secrète, et qui ont un impact éternel dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et ces œuvres que nous mettons en place individuellement ou collectivement, elles ont pour but de glorifier Dieu, d'incarner dans notre société la présence de Dieu, sa grâce, son salut, son projet rédempteur, son regard de vie, son regard de bénédiction, son regard prophétique sur chaque personne, d'incarner sa puissance de guérison et de restauration dans les vies, les foyers, dans les structures sociales, économiques. C'est ça, je ne vais pas faire le détail de ces œuvres auxquelles nous pensons, mais c'est tout cela qui permet au royaume de Dieu de devenir concret, de marquer et de transformer les villes, les quartiers et les territoires dans lesquels nous sommes. Parce que c'est cela que nous voulons voir. C'est des personnes sauvées, transformées, en vue de structures qui, elles aussi, sont transformées, pour que cette terre soit remplie de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. Nous ne perdons pas ce but et cette perspective-là. Évidemment, dans la période que nous sommes en train de traverser ensemble, la question se pose. Quand quelqu'un nous quitte, quand une vie est brisée dans son élan, quand le potentiel d'une personne semble être réduit à néant par la maladie ou par la mort, qu'en est-il? Peut-on encore espérer? Peut-on encore parler d'avenir? Peut-on encore parler de destinée? Et la question s'est posée dans notre équipe de savoir, est-ce que vraiment Il ne fallait pas faire une pause sur ce thème-là. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être passer à autre chose pendant un temps et revenir ensuite? Et puis, finalement, non. Il nous semble que ce ne sont pas les épisodes, même douloureux, de notre parcours commun qui déroutent le plan de Dieu, mais que ce plan de Dieu se poursuit, quels que soient nos chemins, et à travers ces chemins. Et c'est de cela dont je voulais parler ce matin avec vous, poursuivre sur le thème que nous nous sommes donné, que Dieu, je crois, nous a révélé, en faisant bien sûr des liens avec la souffrance que nous portons et que le Seigneur connaît. Et ce thème, pour moi, ce qui va peut-être faire le lien avec tout cela, c'est cette notion de la pensée de l'éternité. Vous savez tous que le texte de mariage qui a été si souvent cité de Stéphane et de Sandrine, c'était ce texte d'Ecclésiaste. C'est ce texte aussi qui a donné son titre à une page Facebook qui est en bénédiction à des centaines et des centaines de gens. À travers cette page Facebook, des gens retrouvent la foi, des gens retrouvent le chemin de la prière, le chemin de la réflexion sur l'existence et la relation avec Dieu. Et cette page s'appelle « Il fait toutes choses belles en son temps ». C'est tiré du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses bonnes » ou selon les versions « toutes choses belles en son temps ». Cette phrase est reprise dans d'autres versions, comme ici. Voilà, toute chose belle, toute chose bonne. Ici, c'est la version second 21. Il fait toute chose belle au moment voulu ou en son temps. Et ce qui m'a frappé ces jours-ci, c'est pas ce verset que nous connaissons bien, mais c'est la suite. Il a mis dans leur cœur, le cœur de l'humanité, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Autre version, version second 21, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et c'est cette pensée de l'éternité qui, pour moi, ce matin sera ma base de réflexion pour nous permettre non pas de saisir, puisque ce texte dit bien qu'on ne comprend pas tout, et on le dira et on le redira, nous n'avons pas les réponses à toutes nos questions, nous n'avons pas à les exiger, nous n'avons pas à donner à Dieu des ordres concernant et nos pourquoi et nos comment. Donc nous restons avec les uns et les autres, quels que soient nos parcours, avec souvent beaucoup de questions et beaucoup de points d'interrogation. Néanmoins, cette pensée de l'éternité a besoin d'être fortifié en nous. Il y a beaucoup de choses dans nos vies, y compris les souffrances extrêmes par lesquelles nous pouvons passer. Mais notre parcours, notre compréhension de l'appel de Dieu pour nos existences, tout cela, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'éclairer, prendre un relief nouveau. Si la pensée de l'éternité, qui est comme un embryon dans nos vies, quelque chose qui est un peu diffus, quelque chose qu'on ne peut pas... c'est l'éternité, ça nous échappe. On ne peut pas trop en parler, mais quand l'Esprit de Dieu vient et ouvre une révélation, ouvre des fenêtres sur cette notion d'éternité, alors beaucoup de souffrances, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension trouvent pas toujours une explication, mais en tout cas trouvent un cadre, trouvent un élargissement, et cela procure un apaisement nécessaire dans nos cœurs. Cette pensée de l'éternité, eh bien, c'est d'abord ce sur quoi on s'arrête souvent. C'est la vision du royaume de Dieu, bien sûr, dit autrement. Cette vision qui marque une continuité tellement forte entre le présent, entre nos parcours terrestres et l'avenir. La mort semble être la fin d'un parcours. Et ça l'est sur un plan terrestre. Ça l'est sur un plan relationnel. C'est une fin. C'est une impasse. Mais du point de vue de l'éternité et du projet de Dieu, alors il y a un autre regard possible qui allie, qui concilie à la fois le parcours terrestre limité dans le temps et puis la dimension de l'éternité. Ça nous échappe intellectuellement, c'est impossible à capter, à expliquer, mais n'empêche que c'est par l'Esprit de Dieu que cette pensée de l'éternité, on n'a pas que la pensée de l'éternité, on a la vie éternelle en chacun de nous. Cette vie éternelle, dans notre esprit, élargit notre compréhension, élargit notre perception à une dimension qui nous échappe. Et c'est cela qui nous permet, eh bien, de comprendre, en tout cas d'accepter et de voir les choses d'un point de vue. Quand je parle avec mon frère et qu'on se dit ensemble en pleurant, et pourquoi, mais finalement, mais à quoi ça sert? La seule réponse, c'est même pas une réponse, mais la seule, ouais, enfin, c'est une réponse, mais ça n'explique pas tout, qui me vient, c'est-à-dire, de notre point de vue, ce qui est insupportable et inacceptable peut devenir, non pas compréhensible, mais un peu plus facile à appréhender quand on se place du point de vue de Dieu. Et c'est de cela dont je voudrais parler. Et en parlant des œuvres, en parlant de nos destinées, il y a un texte qui me revient très souvent, notamment à l'occasion des obsèques des uns ou des autres. C'est ce texte d'Apocalypse 14, verset 13, qui dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris ». C'est Jean. Jean, c'est l'apôtre Jean, qui introduit cette lettre appelée « Révélation » Apocalypse de Jésus-Christ par cette parole « Moi qui suis appelé comme vous à la souffrance et au royaume ». Et on y reviendra. Et dans cette révélation qu'il a, cet homme entend Dieu lui dire « Écris, heureux !» Vous pouvez le dire avec moi ça ?« Heureux !» « Heureux dès à présent !» « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Vous l'avez lu cette parole combien de fois ? Ce matin, j'aimerais la mettre en lumière, parce qu'elle montre que notre parcours terrestre aux uns et aux autres ne se termine pas au moment où nos yeux se ferment, mais il nous suit, il nous poursuit dans le bon sens du terme. Et dans la présence de Dieu, ceux qui se sont endormis, dit Paul, qui nous ont précédés, sont là avec ce parcours, avec ses œuvres. L'impact de nos œuvres terrestres se poursuivra au-delà de notre mort. Ça peut être un beau vœu à faire, cela. Seigneur, que ce que je fais, que ce que je suis marque ce que je laisserai le jour où je partirai. Bien sûr, non pas pour la tristesse et le chagrin seulement, mais parce que j'aurais pu semer dans la vie de ceux qui me sont donnés, ceux qui m'entourent, quelque chose qui va demeurer. Et Sandrine a semé. Et nous en voyons déjà les fruits, nous en verrons les fruits. Et nous semons tous. Ce qui fait que, même si nous sommes enlevés à l'affection de nos proches, ce que nous avons fait, nos œuvres, elles se poursuivent. Et ça, c'est notre foi. Et c'est une source de consolation. Mais elles se poursuivent pas seulement sur la terre, elles nous suivent dans les cieux. Et dans la présence de Dieu, il y a du repos de toutes ces œuvres. Elles sont pas effacées, elles sont pas oubliées, elles sont pas... Non, la vie n'est pas une parenthèse. La vie terrestre n'est pas une parenthèse. C'est une école, une préparation. C'est une étape de notre parcours éternel, parce que notre destinée, comme notre appel et notre mission aux uns et aux autres, est une mission éternelle, a une dimension éternelle. Et j'aime ce texte qui parle de repos, mais qui parle aussi de valorisation de tout ce qui a pu être fait par les uns et les autres pendant le parcours terrestre. Un autre texte qui montre que la vie se poursuit, ce texte aussi, vous le connaissez bien, c'est Luc, chapitre 20, verset 37, qui dit « Que les morts ressuscitent, c'est bien ce que Moïse, et ça faisait longtemps que Moïse avait écrit à ces Juifs auxquels Jésus s'adresse, c'est bien ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson ardent, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, celui qui se révèle à lui, il l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Ça fait longtemps qu'ils étaient morts, ces hommes-là, mais le Dieu qui se révèle à Moïse, eh bien, est le Dieu de ses trois ancêtres, ses trois patriarches, et c'est ainsi que Moïse le nomme et le reconnaît. Or, Dieu Et voilà la porte de cette parole. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. On peut le lire ensemble, ça ? C'est un coup de pied à la puissance de la mort avec tout ce qu'elle va mener de deuil, de tristesse, de poids, de défaite, d'échec, de frustration. Christ a vaincu la mort et nous le disons à chaque enterrement. Nous le proclamons chaque fois que nous louons celui qui est vivant au siècle des siècles et qui est roi des rois. Et par contre, nous sommes confrontés à la mort. Bien sûr, parce que c'est le temps actuel, on y reviendra. Mais n'empêche que face à cela, nous disons encore, Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et ceux qui sont morts sur un plan physique sont vivants spirituellement. Celui qui croit en moi, dit Jésus, devant la tombe de Lazare, vivra quand même il serait mort. Mais quelle belle parole qui donne un coup de pied à tous nos raisonnements cartésiens. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et il faut le dire et le redire. C'est pas des formules de consolation un peu comme ça, sentimentales, pour essayer de passer le cap et de faire son deuil, comme on dit. Non, c'est la puissance de la vérité qui apporte consolation et qui apporte réconfort au sein des pleurs et du chagrin. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il y a une vie en nous qui est impérissable. Que la maladie, que l'épreuve, que les difficultés, que les combats ne peuvent pas, dont ils ne peuvent pas avoir raison. Cette vie, elle est éternelle. Et c'est pas parce que nos yeux se ferment au monde qui nous entoure. Et du coup, pas parce que nous sommes enlevés à l'affection des nôtres que pour autant la vie ne se poursuit pas dans la présence de Dieu. Dieu est le Dieu des vivants. Pour lui, tous, est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est une façon de louer Dieu et de proclamer la victoire de Christ. Pour lui, tous sont vivants. Pour lui, tous sont vivants. Pour lui, tous sont vivants. Amen. Et ce sont les vivants qui le louent. Ce sont les vivants qui continuent de le louer, de le célébrer dans la gloire. C'est notre foi et notre confiance. Amen. C'est pour ça que Paul disait, c'est des paroles qu'on connaît bien. Il y a des moments où ils prennent un relief particulier. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. C'est sa révélation de l'éternité qui lui permettait d'affronter les souffrances du temps présent. Il disait, cette parole de Romains 8, les souffrances du temps présent n'ont pas de commune mesure avec la gloire qui sera révélée pour nous. C'est un des textes fondamentaux pour notre vision du royaume de Dieu. Mais c'est pas juste une formule abstraite. Quand on me demande comment ça va, je dis bien en ce moment, on a des temps de gloire, parce qu'on a vu la gloire de Dieu à différents moments, de l'accompagnement de Sandrine, les moments qui ont suivi, je ne vais pas y revenir, mais les moments qui ont suivi son départ, on a vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la gloire de Dieu dans la façon dont les proches, les enfants réagissent. On voit la gloire de Dieu, dans la consolation qui se répand, on voit la gloire de Dieu. Et en même temps, c'est une souffrance extrême, insupportable. Et on a l'impression que dans notre vie, parfois, c'est les temps de gloire et la souffrance, on passe à côté, ouf, tant mieux. Et on pense que peut-être la vie chrétienne, c'est ça, c'est que la gloire et puis la souffrance. Oup, non, j'en dis, moi qui suis appelé, qui est part comme vous à la souffrance et à la gloire. Alors, les dosages sont divers. Il y a des moments où, oui, c'est vrai, c'est que la gloire et puis la souffrance, bon, tant mieux. Profitons-en dans ces moments-là. D'autres moments où la souffrance, elle est, et c'est le sentiment que nous avons en tant que famille, en tant qu'église en ce moment, la souffrance est équivalente à la gloire. C'est comme si le seuil de souffrance et de gloire était, non pas au maximum, qui peut dire ça, mais en tout cas de ce que nous pouvons supporter, oui, c'est au maximum. Comment ça va? Ben oui, il y a la souffrance qui est intolérable, et puis il y a la gloire aussi qui est là. On peut pas la nier, elle est là, mais c'est au même niveau. Et des fois, je dis, Seigneur, un peu moins de gloire. Comprenez pourquoi. Mais un jour, les souffrances du temps présent n'apparaîtront plus que comme rien du tout face à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et là, la tendance sera renversée. Ce ne sera même plus, parce qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni larmes, ni rien de semblable. Il y aura la gloire de Dieu dans nos vies, l'accomplissement de son projet, de son salut, de son plan rédempteur et les souffrances qui aujourd'hui nous terrassent, qui aujourd'hui nous accablent et nous anéantissent, ces souffrances-là n'apparaîtront plus comme des passages, peut-être nécessaires en tout cas, voilà, des passages qu'on a subis, mais qui n'auront plus d'impact, plus de blessures, plus de traces. et dans nos mémoires, et dans nos émotions, et dans nos vies. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. On va lire quelques textes comme ça. J'ai plusieurs textes à vous faire. Des textes qu'on connaît bien, mais j'aimerais les laisser parler pour nous. Parce que ce texte nous parle de notre espérance finale. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente ou une enveloppe, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Ce domicile, c'est le corps glorifié qui nous attend. Puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, c'est les souffrances du temps présent, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel, tout ce qui est en nous est marqué par la mort, y compris nos corps, soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage ou les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Là, c'est pas évident ça, hein, pour tout le monde. On ne dit pas ça comme ça. On ne fanfaronne pas dans ce thème-là. Mais c'est ce que Paul dit. Je veux juste montrer que la révélation qu'il avait de l'éternité lui permettait de dire cela. Il n'était pas dépressif. Hein. Des fois, on a envie de quitter ce monde pour fuir et puis pour échapper. Ce n'est pas de ça dont il parle. Paul, j'aime cet homme, sa capacité à vivre pleinement son existence, ses relations, la mission, le ministère qu'il avait reçu du Seigneur. Il le vivait à fond, plein de joie. Réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Il vivait ça pleinement. Mais là, il nous dit, au-delà de tout ça, il y a un désir, c'est d'être auprès du Seigneur. Et c'est d'entrer dans cette éternité. Et du coup, eh bien, cette espérance-là prend le pas sur tous les autres projets et tous les autres rêves. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. On y reviendra, mais ça veut dire que pour Paul, la mort, y compris la mort de maladie, n'est pas un échec. Gardez ça en tête, on y reviendra. À la résurrection, alors, ces œuvres, ce parcours de nos vies, sera là, visible, valorisé, et le Fils de l'homme, Matthieu 24, verset 17, quand il viendra dans la gloire, avec ses anges, rendra à chacun selon ses œuvres. Aujourd'hui, il y a le repos pour ceux qui nous précèdent de leurs œuvres. Au jour de la résurrection, ces œuvres seront là, évaluées. Non pas pour un jugement de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Mais c'est un jugement qui va aboutir à des récompenses. Et on le dit souvent, il y aura sûrement beaucoup d'étonnement. Ce n'est pas la notoriété, ce n'est pas le rendement, ce ne sont pas les performances, ce n'est pas le caractère visible, médiatique seulement qui entrera en ligne de compte. Mais c'est ce que nous aurons les uns et les autres semé dans l'amour, dans la fidélité, dans la vérité. Le critère du jugement pour nos œuvres à ce moment-là, ce sera la fidélité à Dieu, la fidélité à son appel, la fidélité à ce qu'il nous demande. Et là, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ça vaut la peine de continuer, même si les temps sont parfois difficiles, dans cette perspective de vivre dans la présence de Dieu à son service et de continuer, de redoubler. En fait, s'il y a un message qui nous est laissé aujourd'hui, c'est avec la force que Dieu va nous donner, hein, pas faire de la surenchère, mais c'est continuer de servir et d'accomplir les œuvres que Dieu a prévues que nous fassions pour sa gloire, pour ce jour où eh bien, nous pourrons paraître devant lui. Deuxième réflexion, c'est, il y en a trois, hein, ça ira vite. Je parlais de la continuité, mais il y a plus que continuité entre le présent et l'avenir. Il y a un lien. Il y a entre le ciel et la terre. Et j'aimerais le souligner ici, parce que c'est une façon aussi d'atténuer la souffrance pour ceux qui nous ont quittés. Je prends un des textes qui parle de cela, Apocalypse 4, verset 1. « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette. Dit alors, monte ici. » Parfois, il faut aller plus haut hein, pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. « Et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Celui qui était assis, je vais lire tout le chapitre, il y a 7-8 versets seulement, mais juste pour nous imprégner de cette atmosphère du ciel. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce que je retire de ce verset, c'est que le ciel, ce n'est pas un lieu extrêmement élevé, inaccessible. Le ciel, c'est la présence de Dieu qui est présent parmi nous. Et même s'il nous est voilé, si Dieu, dans sa gloire et dans sa majesté, ne peut pas être accessible à nos sens humains, il est présent par son esprit. Et ce ciel ici, dans lequel se retrouvent ces êtres, nous parle aussi de la communion qu'il y a entre ceux qui nous ont précédés, de tout siècle, de tout temps, et nous-mêmes. Les 4 êtres vivants, ce sont ces chérubins qui célèbrent la gloire de Dieu. Ce sont ces êtres célestes consacrés à la célébration de la gloire de Dieu. On les retrouve tout au long de l'Écriture. Mais les 24 anciens, c'est dans le langage de l'Apocalypse, symbolique. Ça représente le peuple de l'ancienne alliance, fondée sur 12 tribus. Et le peuple de la nouvelle alliance, fondée sur 12 apôtres, qui ensemble se trouvent dans la présence de Dieu. C'est l'Église universelle. De tout temps, de ceux qui nous ont précédés comme de ceux qui sont aujourd'hui sur la terre et qui sont dans la présence de Dieu. Une de nos consolations quand nous pensons à ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils sont dans cette même présence de Dieu que nous. Ils n'y sont pas encore dans le corps glorifié parce que la résurrection n'a pas eu lieu. Et vous savez ce qui se passera au jour du retour du Christ. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et tous ceux qui seront restés pour l'avènement seront, eux, transformés et glorifiés pour que tous ensemble nous soyons dans sa présence pour l'éternité. Ça, c'est ce vers quoi nous allons. Mais aujourd'hui, ceux qui nous ont précédés sont déjà dans la présence de Dieu. Quand j'étais avec d'autres dans ces derniers moments, une des prières de Sandrine était « Je veux servir Dieu ». Dans sa pensée, comme pour nous tous, c'était servir sur la terre, en continuant son parcours terrestre. Et c'était bien ce qu'on souhaitait tous. Je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Quand elle est partie, on s'est dit, mais alors, c'est quoi ces paroles? Et on se pose toujours ces questions sur ces paroles. Mais n'empêche que ce que l'on sait, ce qui nous console, c'est qu'elle est aujourd'hui dans l'accomplissement de cette parole au service de Dieu dans sa présence. Elle est autour du trône. Amen. Quand on pleure quelqu'un qui nous a quittés, très souvent je crois qu'on pleure sur nous-mêmes, sur la peine légitime. Et on a le droit, et c'est juste, ce serait bien quand même le comble qu'on ne pleure pas ce qui nous manque. On est créé ainsi. Et ce n'est pas parce qu'on est humain, ou pas parce qu'on est charnel, ou pas parce... Non, c'est normal. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare parce qu'il a compris ce que la mort pouvait produire dans une famille et dans des relations. Il n'a pas pleuré d'impuissance, il savait qu'il allait le ressusciter. Il a juste pleuré parce qu'il... Enfin, juste de compassion, parce qu'il s'est identifié. Et nous avons le droit de pleurer. Et n'empêche que... Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais... En même temps, quand nous pensons au fait que ceux qui nous ont précédés sont... dans cette présence, dans une dimension plus grande que celle que nous connaissons. Qu'ils commencent à vivre l'aboutissement de leur désir, de leur passion pour Dieu. Et Dieu sait combien Sandrine était passionnée pour Dieu. Ils sont en train de voir, leurs yeux commencent à voir la réalité de Dieu, bien plus que ce que nous en percevons. Ça, c'est une source de consolation, de nature à apaiser et à nous faire dépasser le cadre du deuil et de la peine. Alors, ces 24 anciens, c'est l'Église. Vous savez, quand on loue Dieu ensemble, on ne le fait pas juste sur un plan terrestre comme ça, matériel. Le ciel est présent. On le dit souvent, hein ? Il y a l'atmosphère du ciel. Oui, parce que le Saint-Esprit est là. Et avec nous, sans qu'on ait évidemment le droit d'établir de contact, de communication avec ceux qui nous ont précédés. Évidemment pas. Heureusement pour eux d'ailleurs, parce que, vous savez, des fois on lit, on entend, ah ben voilà, maintenant quelqu'un qui va veiller sur nous depuis le ciel. Eh ben non. Bon, c'est un peu douloureux de dire ça, parce qu'on trouve chacun, vous savez, une façon d'échapper à la douleur. Donc voilà, une étoile dans le ciel qui va briller sur nous. Surtout pas. Qui va nous veiller sur nous. Surtout pas. Si ceux qui nous ont précédés, alors qu'ils sont dans la présence de Dieu, voyez notre parcours terrestre avec tout ce qu'il comporte de souffrance, de difficulté, eh bien, je ne vois pas comment il pourrait être dans la joie et dans la plénitude. C'est impossible. Et la Bible nous dit bien qu'il n'y a pas de communication possible entre la terre et le ciel dans ce sens-là, entre ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes. C'est interdit. Et vouloir évoquer ou appeler ou communiquer avec ceux qui nous ont précédés, c'est quelque chose que Dieu réprouve. Donc on n'est pas dans cette dimension-là. Par contre, il y a une communion. C'est ce que la Bible appelle, la Bible, mais c'est ce que le credo dit. Je crois à la communion des saints. Amen. Alors nous, en tant qu'évangéliques, ce truc qui nous gêne, parce que non, les saints, on va pas les prier, on va pas ceci, mais évidemment, n'empêche que la Bible parle de la communion des saints. C'est-à-dire, le race ici dans ce texte, mais comme dans bien d'autres, la communion de l'Église de tous les âges, de l'ancienne et de la nouvelle alliance, qui se retrouve dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Et quand nous adorons dans sa présence, le ciel est ouvert. Nous sommes en communion avec les anges. Parfois, il y a des visions d'anges. Qu'il y ait des visions ou pas, ça n'empêche qu'ils sont là. Le trône est là. Et nous pouvons être en communion avec les saints, et notamment ceux qui nous ont précédés, pour louer et célébrer Dieu. Vous croyez cela? C'est réconfortant. Et c'est là que le deuil, la souffrance qui accompagne le deuil, peut être atténuée. La souffrance de la peine et de la séparation est là. Mais la souffrance qui est une torture et qui fait qu'on a l'impression que tout est fini, qu'on est anéanti, disparaît parce que, eh bien, là, on veut le meilleur pour ceux que nous aimons. Et sachant qu'ils sont dans la présence de Dieu, comme nous y sommes, et bien plus encore que nous. Alors ça ne peut que nous rassurer, nous réjouir et nous consoler. Amen. Chaque fois que les anges, alors on ne va pas relire tout, peut-être, vous relirez tout ce chapitre 4, hein. Chaque fois que les, verset 9, chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne. Vous entendez? L'écho du ciel? Tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées, qu'elles existent. Amen. Une église qui loue dans l'onction de l'Esprit, comme nous essayons de le vivre, est une église dont l'adoration ici fait écho à l'adoration du ciel. Vous comprenez ça? Chaque fois que les êtres vivants consacrés à la célébration de Dieu célèbrent Dieu, alors, les 24 anciens, l'Église dont nous faisons partie, répond à cela, emboîte le pas et s'unit pour célébrer et glorifier Dieu. Et c'est cela qui fait que la louange a une dimension céleste. Donc le lien entre la terre et le ciel, c'est aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous réconforte. Mais sur un autre plan aussi, Apocalypse 6, verset 9, il est question aussi de l'activité de ceux qui nous ont précédés. Là, il s'agit des martyrs ou des témoins de l'époque. Alors bien sûr, ce n'est pas le statut de chacun de ceux qui sont auprès du Seigneur, mais n'empêche qu'ils sont là dans une fonction d'intercession. Ils crièrent d'une voix forte, verset 10, « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Il y a une intercession de ceux qui nous ont précédés, et notamment ici de ceux qui sont morts pour la foi auprès de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ça ne veut pas dire qu'ils prient pour nous au sens que de, individuel. Ça veut dire qu'ils ils invoquent la venue du règne de Dieu. Ils invoquent aussi la manifestation du jugement de Dieu. Donc il y a une intercession dans les cieux. Ils sont là, ils sont actifs. Ils ne sont pas dans les corps glorifiés, mais ils sont actifs. Et ils intercèdent. Nous, nous n'avons qu'un seul intercesseur. Nous ne cherchons pas l'intercession de ceux qui nous ont précédés. C'est Christ, notre médiateur, qui intercède pour nous. Mais nous savons que ceux qui nous ont précédés intercèdent aussi pour que son règne vienne. Et ensemble, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus, et que ton règne vienne. En terminant, je vais dire quelques mots sur le fait que tout cela, alors qu'on va peut-être... Tout cela nous renvoie à la question de cette vision de l'éternité, nous permet d'aborder la question de la guérison ou de la non-guérison. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi tous les malades ne sont-ils pas guéris? Ce n'est pas lié aux œuvres comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est lié à notre compréhension de l'éternité. Pourquoi tous les malades? On découvre sur Internet des livres, des publications dans lesquelles on dit tout le monde doit être guéri. Si les malades ne sont pas guéris, c'est que on manque de foi, on manque d'onction, on manque de sainteté, on manque. Vous lisez tout cela, à la fin, vous n'avez plus qu'à. Seigneur, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Bien sûr qu'on a besoin de plus de réveil, on a besoin de plus de puissance, besoin de plus de sainteté, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que aucun texte de l'Écriture ne dit que tous les malades doivent être guéris ou seront guéris sur la terre. Quand Jésus allait de lieu en lieu, par endroit, il guérissait tous les malades. Amen. Ce n'était pas le cas partout. Et ce n'était pas le cas pour tous ceux qui étaient malades du temps de Jésus. Et aujourd'hui, penser que tous les malades doivent être guéris parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'eux, c'est une hérésie. C'est un excès. Et je vais dire pourquoi. Parce que l'Écriture ne parle pas ainsi. Regardez les textes, j'en ai pris quelques-uns, qui parlent de la réalité de la maladie, y compris pour des hommes de Dieu, comme Élisée. Élisée, 2 Rois, chapitre 13, verset 14, il est dit qu'il est atteint d'une maladie qui l'a conduit à la mort. Élisée, c'est l'homme qui a reçu la double onction, la double portion de l'esprit, qui a vu deux fois plus de miracles qu'Élie, son père spirituel. Il est mort de maladie. Échec, non, c'est pas un échec. Il n'empêche que c'est une réalité douloureuse, mais c'est une réalité. C'est pas une excuse, c'est pas une façon de dire, vous voyez, donc si lui est mort, non, non, mais c'est la réalité de ce que la Bible dit. Il faut pas prendre des textes bibliques que l'on tord à notre sauce pour en faire des absolus qui deviennent des hérésies. L'Écriture nous montre la puissance de Dieu dans la guérison et puis aussi des situations dans lesquelles il n'y a pas eu de guérison. Paul, il est dit de lui qu'il a laissé à Milet Trophime, malade. Paul, d'accord? Elle a vu des miracles. Et dans une situation concrète, mais voilà, j'ai laissé Trophime malade. Et lui-même, quand il parle de l'écharpe dans la chair, on peut comprendre l'écharpe dans la chair comme étant un problème plutôt lié à la chair au sens spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui était une pression sur sa nature, mais aussi on peut le comprendre comme une maladie. Et il dit clairement, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'énorgueillir. Mais enfin, Paul, on t'a pas appris les secrets de l'autodélivrance et de la proclamation et de la parole de confesser, on t'a pas appris tout ça, Paul? Il aurait dû lire les livres d'un tel, je ne vais pas donner les noms ce matin. Ça lui aurait fait du bien peut-être, il aurait évité ce parcours-là. Ah ben, c'est quand même la parole de Dieu là, donc on est devant quelque chose qui nous dépasse. Point. Et quand il écrit aux Galates, chapitre 4, verset 14, il dit, mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ça veut dire que peut-être à cette époque-là, il y avait aussi des gens qui pensaient que si on n'était pas guéri, c'est que on n'avait pas la foi, on n'était pas assez saint, ou ceci ou cela. Et donc, quand ces gens arrivaient dans une communauté, on pouvait les regarder un peu de haut en disant, bah oui, franchement. Et Paul dit, vous m'avez témoigné ni mépris ni dédain, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Voilà ce que la Bible dit aussi. En même temps que les promesses de guérison, en même temps que l'affirmation de la victoire de Christ sur la croix, que tout est accompli, que les démons nous sont soumis, que nous devons guérir les malades, ressusciter les morts, et nous croyons cela, et nous voulons le vivre toujours plus, même un tout petit peu plus, ça nous suffirait. Et en même temps, nous ne sommes pas en position d'exiger et de faire des déclarations selon lesquelles, eh bien voilà, tous les malades doivent être guéris. Parce que ça appartient à Dieu en définitive. Et il y a une sagesse qui lui appartient et dans laquelle on ne cherche pas à mettre des mots. On ne va pas dire, et ça je l'ai déjà dit à d'autres moments, on ne va pas dire pour le départ de tel ou tel, le Seigneur l'a repris. Où est-ce qu'on a vu ça? Il n'y en a qu'un qui l'a accompagné dans sa maison, c'est Enoch. Il l'a accueilli alors qu'il marchait avec lui, mais le Seigneur ne reprend pas. Et je ne crois pas que la parole de Job, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni, soit une parole qui soit applicable à nos vies. C'est une parole de Job dans un moment d'extrême souffrance qui est l'expression de ce qu'il vit, mais ce n'est pas une parole qui est confirmée par d'autres textes de l'Écriture. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu n'est pas un pervers qui donne et qui reprend comme ça. On n'est pas des marionnettes entre ses mains. Alors ces paroles-là, ne les prenez surtout pas pour vous et de grâce, ne les dites à personne qui passerait par le deuil. Ce que l'on comprend de cette parole, c'est que quel que soit ce qu'on vit, on bénit Dieu. Ça oui. Mais on ne rend pas Dieu l'auteur du mal, de la souffrance ou du deuil que l'on subit. Ça, c'est anti-biblique et c'est pas juste. Ces jours-ci, le lendemain du décès du départ de Sandrine, un évangéliste connu mondialement qui s'appelle Nabil Qureshi du Pakistan est mort du cancer à 34 ans. Il a laissé petite fille de quelques années. Quelques mois auparavant, sa femme a subi une fausse couche. Bon, peu importe, c'est peut-être pas lié, mais voilà le parcours de vie de cet homme. Un homme que Dieu utilise pour démontrer l'autorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport à d'autres religions, notamment par rapport à l'islam. Un homme qui avait un parcours dans l'islam et qui a découvert le Christ et qui était devenu un témoin du Christ, qui parlait à des foules, qui a vu avec d'autres des miracles, pour qui des nations entières des chrétiens de toutes les nations se sont mobilisés pour prier pour la guérison. Cet homme n'a pas fait de la guérison un enjeu. Il dit oui, c'est prêt pour le miracle. Mais si Dieu ne permet pas cela, alors je suis prêt aussi à le rejoindre. Le 16 septembre, samedi matin, 34 ans. Et c'est un exemple parmi d'autres. Mais cette proximité quand même est surprenante. Alors attention aux raccourcis, attention aux généralisations. Non, que notre foi soit basée sur l'Écriture, sinon on va au-devant de frustration et d'incompréhension. On ne comprend pas, et c'est assez douloureux comme ça. Si en plus, notre foi est basée sur des faux fondements, on comprend encore moins, et la douleur est encore plus grande, et la frustration aussi. Alors, en terminant, je crois qu'il y a dans ces paroles-là, cette vision de l'éternité, et d'espérance, il y a une consolation réelle. Ce n'est pas une consolation sentimentale, émotionnelle, c'est une consolation que cet esprit peut produire. Et c'est à cela qu'on s'ouvre. C'est pour cela qu'on crie à Dieu. C'est lui seul qui peut. 1 Thessaloniciens 4, verset 18, « Consolez-vous par ces paroles. » C'est-à-dire qu'il venait d'expliquer l'espérance qui était là, celle des croyants, un jour d'être tous ensemble, réunis dans la présence de Dieu. « Consolez-vous par ces paroles. » Non pas pour balancer des versets bibliques qui seraient... Non, juste pour nous ouvrir à la puissante consolation qui vient de Dieu et qui est fondée sur sa parole. Non pas sur des chimères, non pas sur des hypothèses, je ne sais quoi, mais sur sa parole. Deuxième chose, c'est notre espérance qui est là. L'espérance qu'un jour, eh bien, tout ce qui est fait, le deuil, la souffrance et la maladie, la tristesse, etc., n'existera plus. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant, c'est-à-dire sur le temps terrestre, a disparu. Apocalypse chapitre 21, verset 4. C'est ce vers quoi nous allons. Et quand Dieu guérit un malade, c'est pas simplement pour soulager, c'est parce qu'il veut montrer. Les miracles sont des signes du royaume. Ce ne sont pas des buts, ce ne sont pas des récompenses, non, ce sont des signes de la présence de Dieu, de ce qui sera dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus de maladie. Parce que la victoire de Christ acquise à la croix aura été pleinement manifestée par son retour et son triomphe sur l'ennemi. et il jettera la mort dans l'étang de soufre et de feu avec Satan et ceux qui l'auront servi. Et là, la victoire sera initiée à la croix, sera pleinement manifestée. Vous comprenez ça? Nous sommes dans la victoire de Christ, tout est accompli. Et nous attendons dans l'attente, cette victoire qui sera pleinement manifestée au jour de son retour. Et là, il n'y aura plus ni deuil. Aujourd'hui, quand il y a une guérison, c'est pour nous montrer ce que sera le royaume auquel nous sommes appelés et vers lequel nous allons. Et il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des prodiges pour montrer la compassion de Dieu, pour montrer ce qui nous attend. C'est ça le but des miracles, mais jamais de nous faire échapper à la souffrance dans un but égocentrique, ni de nous satisfaire ou de nous faire... Non, on préfère échapper à la souffrance, mais on ne peut pas crier à Dieu pour le miracle dans cette motivation seulement d'échapper à ce que il nous est insupportable et à ce que nous voulons fuir. Mais nous savons que si nous passons par l'épreuve, il y a la provision de Dieu, la force de Dieu pour traverser. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été au-dessus de vos forces. Parfois, on n'imagine pas qu'on avait autant de force. En fait, cette force-là, elle ne peut venir que de Dieu. On ne la sent pas, mais elle est là. Elle nous permet de tenir bon. Parce que la grâce de Dieu est là. Et Dieu mesure l'épreuve en fonction de cela. Dans l'espérance, et en terminant, nous continuons de prier que ton règne. Nous continuerons de prier pour la guérison des malades. Nous continuerons de prier pour la résurrection. Nous continuerons de prier pour la délivrance de ceux qui sont tenus par les esprits. Nous continuerons de mettre la pression sur le royaume des ténèbres. Nous continuons de croire que l'Église a pour mission de faire reculer les frontières du royaume des ténèbres. Et que les portes du séjour des morts ne pouvons pas prévaloir contre nous. Et que rien ne peut nous nuire. Ça n'est pas la mort, y compris physique. Ça n'est pas la maladie qui détruit le projet de Dieu pour nous, puisqu'il est éternel. Nous ne sommes pas dans l'échec, nous sommes dans la proclamation et l'espérance de sa victoire qui vient. Dont nous vivons les effets déjà, mais qui un jour sera pleinement manifesté. Le jour où la gloire de Dieu remplira la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Que ton règne vienne. Il y a une chose qui peut transformer l'échec en victoire, qui peut transformer la souffrance en cri de joie, c'est que ce qui peut transformer ce qui peut paraître, je n'ai pas de mots, alors vous mettez le mot que vous voulez, mais en gloire, cette réaction que Dieu peut créer dans nos cœurs, tout en étant encore dans la souffrance, tu n'es qu'encore dans la peine, c'est normal, mais très action de dire, Seigneur, nous ne céderons pas à l'intimidation, nous ne céderons pas à la pression de l'ennemi, et nous continuerons avec la force que tu nous donnes, avec ta force et par ta grâce, nous continuerons à combattre les œuvres des ténèbres, à proclamer le salut, à proclamer la guérison, à proclamer la consolation et la présence de Dieu sur notre terre, jusqu'au jour où tu reviendras pour établir ton royaume. Amen. C'est la plus belle chose, c'est la meilleure façon d'honorer aussi la mémoire de Sandrine, même si c'est pas je vais pas en faire, mais quand même, le message qui nous est laissé, c'est aussi celui-là, et c'est en tout cas ce que Dieu veut créer dans nos cœurs. C'est pourquoi on va se tenir devant Dieu un instant. Je crois à la consolation qui va venir par vague sur chacun d'entre nous. La consolation, c'est pas le refus, c'est pas la négation de la souffrance, c'est quelque chose qui enlève la douleur, qui apaise et qui nous permet d'être dans une bonne santé spirituelle pour le servir et pour marcher avec lui. Consolation pour ceux qui ont besoin, mais tout le monde n'est pas concerné ici par cette situation, donc très bien. Mais en tout cas, un nouvel élan pour combattre et pour prier, pour servir, pour que son règne vienne. Nous sommes devant toi, Seigneur, et là, nous n'avons pas ni mots, ni formule, ni quoi que ce soit, nous venons avec nos cœurs parfois brisés, nous venons dans ta présence, parce que tu y demeures en refuge. Et ta présence est toujours accessible à ceux qui sont humiliés, à ceux qui sont affligés. Nous sommes dans ta présence ce matin, tu nous connais chacun, tu connais nos épreuves personnelles, familiales, tu connais parfois aussi des épreuves collectives qui nous affligent, nous sommes là devant toi. Et nous disons, Seigneur, que nous croyons dans ta puissance de consolation et de force. Croyons dans la paix, Seigneur, que tu peux prodiguer dont tu peux remplir, inonder les vies des uns et des autres. Et nous nous ouvrons à cela, Seigneur. Nous bénissons tous ceux qui sont éprouvés de près par le départ de Sandrine. Nous bénissons tous ceux qui peuvent passer ici par une épreuve ou qui sont passés par une épreuve semblable dans leur propre parcours de vie, leur propre famille. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu es notre seul refuge. Tu entends nos cris, tu entends nos pleurs, tu vois nos larmes et tu viens au cœur de nos souffrances pour amener ta présence et ta paix par le Saint-Esprit. Libère, Seigneur. Libère aussi ta compassion les uns pour les autres, ta compassion pour ceux qui souffrent autour de nous. Transforme le mal en gloire, le mal en bien. Cette situation, Seigneur, transforme, transforme. Ce par quoi l'ennemi voudrait nous assommer, nous arrêter, transforme-le en élan, en motivation, en consécration, en amour pour toi, en désir de voir ta gloire et ton règne se manifester encore plus grand, encore plus fortement, au nom de Jésus. Nous ne pourrons pas le créer, nous ne pourrons pas le produire, mais toi tu le peux, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Et tu le fais, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. C'est pourquoi nous disons la gloire de ton nom. Nous disons la gloire de ton nom. Disons notre attente est en toi, Seigneur. Et nous nous confions les uns les autres. Nous nous remettons les uns les autres dans ta main, dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Redisons avec les ailes dans le ciel. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa victoire, pour son règne, pour sa présence, pour sa proximité et pour tout ce qui va germer de toute cette situation dans nos vies, dans l'Église, dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen.